Bonjour et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Ici Rose Tremblay-Fontaine, je suis avec Maïté Pajot. Et pour un deuxième épisode, on reçoit Émilie Bergeron qui est à la maîtrise en histoire médiévale. Donc dans la première partie qu'on vous invite à aller écouter avant d'écouter celle-ci, parce que sinon vous allez peut-être manquer des bouts, on parlait de Lilpran. Pokémon, j'ai eu, hein?
Lilpran, oui.
J'ai encore dit trop le i. J'ai de la misère avec la subtilité du i. Mais Lilpran de Crémone, puis qui est un auteur intéressant du 10e siècle, qui vient d'Italie, qui est très impliqué dans la politique italienne, dans la politique religieuse italienne aussi, et dans son nom.
Antapodosis.
Son nom Antapodosis. qui veut dire la rétribution. Il parle de ses amis et de ses ennemis, qu'il compare à des figures bibliques parfois, mais également classiques. Et là, dans cette deuxième partie de l'épisode, on va parler justement plus de ces comparaisons avec des personnages de l'époque classique. J'ai-tu tout dit comme il faut, Amy?
Oui, ça semblait assez bien, incroyable!
10 sur 10!
Hey! J'y croyais pas. J'ai eu un moment, quand j'ai commencé à parler, j'étais comme...
C'est parce que t'as pas parlé de Major et Fred, fait que t'as été correct. Ou de Béranger.
Ou de Bertrand pour les intimes.
Ouais, Bertrand pour Maïté, puis Béranger 2 pour toutes les autres personnes.
Ouais. Et voilà.
Bon, donc là, si on revient ici, là, Lilpran, c'est ça, il écrit l'anthropodosis.
L'anthropodosis?
L'antapodosis.
L'antapodosis.
Qui veut dire rétribution. Et à l'intérieur, il fait des références à des récits antiques ou païens. C'est ça?
Exactement. Si tu veux un petit truc d'ailleurs pour antapodosis, hein, on peut le décortiquer. Donc, c'est le ant de anti, le apo, puis c'est domini qui devient dosis. Donc, ant, apo, dosis. Qu'on vient à chercher toute l'étymologie de ce que j'ai cherché à faire en essayant de comprendre ce fameux titre grec. Mais on n'y reviendra pas, on va aller voir la partie 1 à ce sujet.
Parfait. Mais je vais essayer de l'avoir pour la prochaine fois.
L'antapodosis.
Mais c'est ça, c'est vrai que si tu t'articules pas du tout, ça m'a...
C'est ça.
Ben non, on comprend.
Mais dans l'antapodosis, on parle de récits païens. Puis là, je fais des guillemets, puis on les voit pas, mais que veut dire païen? Tu sais, pourquoi on est là? C'est des récits païens.
Oh,
peut-être! Je sais pas d'où c'est venu.
T'avais 12 ans?
Non, je pense que c'est Satan qui est venu en moi. Ok, non, non, non. Excuse-moi, c'est comme sorti trop vite, mais allez voir l'épisode 1, je m'excuse, c'était...
On va faire de l'autopromotion, là. Allez voir l'épisode 1, sinon vous n'allez rien comprendre.
Ouais, on va juste être là avec des références.
Donc, païen. à l'époque médiévale, on est dans une époque qui est chrétienne nécessairement. Hein. On le sait que l'Église a une emprise assez importante. Et on fait donc vraiment une distinction de cette époque qui vient avant Jésus, avant que le monde soit chrétien. Et cette époque donc qui est chrétienne, et donc la bonne période où les gens sont bons, c'est des bonnes personnes, et on s'oppose à des ennemis qui sont pas des bonnes personnes. Donc le terme de païen, bon, en fait païen c'est un terme qui vient de paysan, hein, donc c'est le pagus, donc c'est de là que ça vient, parce que généralement dans les terres, on ne suivait pas automatiquement la religion chrétienne au début, ça va venir par la suite nécessairement avec tout ce qui se passe au Moyen-Âge, mais donc c'est un peu cette distinction-là qui est à faire. Donc ce que j'appelle les récits païens, c'est ceux qui ne sont pas écrits ou qui ne sont pas faits pour, écrits par des auteurs nécessairement chrétiens. Donc on est vraiment dans ce... Mais avant Jésus-Christ et parfois jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Bien que généralement quand on est dans la période après Jésus-Christ, on cherche à étudier principalement les auteurs qui sont déjà chrétiens. Donc les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive ou du Haut Moyen-Âge qui vont vraiment prédominer à ce moment-là. Mais on va quand même utiliser encore certains de ces récits-là. Donc quand je parle de récits païens, on parle donc des récits que nous on voit de l'Antiquité. Donc on pense à César et sa guerre des Gaules, on peut penser à tous les philosophes de l'Antiquité. Donc un peu
mythes.
C'est pas nécessairement des mythes, il y a quand même, on peut penser à Hérodote, donc c'est l'histoire à Polybe, on reste dans le récit historique, mais on est dans cette idée-là, oui, d'un...
Mais est-ce qu'on va parler des divinités ou des figures mythologiques?
Donc, il y a certaines références qui sont encore présentes, notamment les figures de la guerre de Troie vont rester présentes nécessairement. Ça a eu tellement une importance.
Mais c'est comme pseudo-historique aussi.
Oui, mais on a quand même ces figures-là qui restent un peu dans les mentalités. Mais généralement, du moins au Moyen-Âge, on essaie de pas trop s'appuyer là-dessus. C'est des débats plus théologiques de savoir qu'est-ce qu'étaient les dieux païens, pourquoi est-ce qu'on les a considérés comme des dieux. Donc il y a réellement des auteurs qui vont se poser sur la question, des auteurs chrétiens qui vont dire « Ah, c'était probablement en fait des démons qui, étaient qui ont été transformés en figures divines. » Donc ça, c'est une des possibilités. Ou souvent, on va... Et voilà, un bord du vin. C'est pas vrai, les médiévaux aimaient bien le vin. Mais...
Mais
c'est
plus que du vin.
Oui, c'est plus que du vin, c'est un petit
peu... C'est la débauche.
Ben, la pornocratie.
Oui, c'est ça, on n'est pas dans une période qui est nécessairement... C'est pas vrai.
C'est vrai.
Dionysos est quand même beaucoup plus affirmé dans sa débauche.
Mais Dionysie aussi.
Oui, non, c'est ça, on n'est pas encore rendu...
C'est quand même rough, là, les Dionysies.
Oui, oui, oui. Mais c'est ça, donc on n'est pas là-dedans, là, mais... Mais c'est ça, on va voir un peu comme une figure un peu démoniaque, mais on peut aussi voir que c'est des hommes qui ont été par la suite portés au poste de divinité. Donc on considère que c'est des hommes qui ont fait des choses qui étaient importantes, mais qui ont été mal compris par l'histoire et qui donc ont été décrits comme étant des dieux plus tard. C'est une des manières de justifier un peu la présence de ces dieux païens. Donc qui n'est pas le seul vrai dieu. Avec Jésus et toute cette figure trinitaire qu'on a au Moyen-Âge. Donc c'est un peu ce qu'on entend par les récits païens. Puis quand je parle de références classiques, on parle vraiment généralement du 1er siècle avant Jésus-Christ. On est dans les figures aussi de la fin de la République majoritairement pour ce qui est de mon auteur. Possiblement parce que c'était les récits qui étaient les plus diffusés.
Mm-hmm.
Hein, donc l'idée que le Moyen-Âge ne connaissait pas l'Antiquité, ça a été réfuté depuis longtemps. On connaissait, on lisait les auteurs classiques, mais on se concentrait généralement plus sur les auteurs classiques de la fin de la République. Donc on pense encore à César, on pense aux grandes figures romaines qu'on connaît.
Parce qu'il était plus accessible aussi. Hein,
et voilà, il y en avait plus, on possédait les œuvres, ils circulaient plus, donc on avait un peu cet intérêt-là. Puis aussi parce qu'il y a des auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive qui se sont intéressés, qui sont des auteurs importants. On pense à Augustin d'Hippone, donc Saint-Augustin, ou à la figure de Paul Orose, par exemple. C'est des figures qui sont importantes pour les auteurs. Mais c'est des auteurs chrétiens, en fait, importants pour le Moyen-Âge, pour les auteurs du Moyen-Âge, mais pour en général aussi, qui vont vraiment créer une forme de culture chrétienne qui va s'implanter. Et comme eux-mêmes ont commenté généralement des figures qui dataient plus de la fin de la République, ben c'est ces références-là qu'on continue d'utiliser. Donc, voilà.
Parfait. Puis, ben là, t'as comme répondu à tout plein de questions. Les auteurs antiques étaient bien connus, les médiévaux, oui.
Oui.
Mais t'as dit qu'ils étaient connus. Mais quels personnages des récits antiques ont été repris par lui?
Lutprand. Donc, Lutprand va citer différents auteurs quand même plus spécifiques. Donc, on va penser à Juvenal, à Perse, à Horace, à Terence, Ovide, Virgile, qui sont vraiment le plus dans les classiques. On va penser aussi à des auteurs chrétiens par la suite, donc Boès et Isidore de Séville, qui sont quand même considérés comme des auteurs classiques, même s'ils sont chrétiens. On les rentre un peu dans cette espèce de flou historiographique.
C'est pour ça que la guerre de Troie est abordée, c'est à cause de Virgile, j'imagine.
Oui, c'est ça. Donc on a des références qui sont très communes. En fait, Virgile, c'est probablement l'auteur païen qui est le plus cité par Lutprand, entre autres par la guerre de Troie. Mais il y a certaines autres de ses œuvres aussi. La guerre de Troie, on s'entend, c'est l'Énéide, là, mais les références finalement à Énée, à la guerre de Troie, puis à la création par la suite de l'Empire romain, puisque l'Empire romain est très important pour les médiévaux, on cherche à se rattacher un peu à cette figure-là. Puis Terence va être la deuxième personne la plus citée, donc les pièces de théâtre de Terence, les pièces comiques.
C'est quoi qu'il fait dans ce pièce de théâtre, lui?
C'est des pièces qui sont comiques, donc on reprend un peu la comédie qu'on connaissait chez les Grecs, qui va être transformée, présentée un peu à la romaine. Donc on a un peu cette idée d'un jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune fille qui ne peut pas marier parce qu'elle n'a pas...
La comédie hellénistique.
Oui, c'est ça, exactement.
Parce la comédie classique, c'est vraiment politique.
Non, c'est ça. On est plus dans... on s'approche de Plaute, finalement.
Okay.
Quand
de Ménandre aussi.
Oui, absolument. Ménandre est une figure qu'on reprend énormément. Donc, que voulez-vous dire non, par mettons, cela?
C'est que, mettons, tu sais, la comédie classique là, de l'Athènes classique, c'est Aristophane que... Mm-hmm. T'as sûrement déjà entendu parler, là, Aristophane ouais. écrit Lysistrata, l'Assemblée des femmes, les oiseaux. Puis c'est toutes des comédies qui sont super politiques dans leur nature, qui vont critiquer le régime démocratique souvent, puisque Aristophane fait partie de l'élite. Puis pour l'élite athénienne, la démocratie, ça a plus ou moins du sens.
Mais fait on n'est pas là-dedans,
mais par avec exemple. L'évolution, c'est ça, avec l'évolution de la comédie, puis tout ça, ben mettons à l'époque hellénistique, Ménandre, qui est comme un des seuls comiques de l'époque hellénistique qui est parvenu jusqu'à nous, on change de registre. Là. Ce qui est drôle, c'est quand même des jokes de pète, genre.
Oui, c'est ça, c'est assez
bas. C'est des jokes physiques, c'est comme, on n'est plus du tout dans un humour comme recherché, mettons. Okay.
C'est ça, puis on est vraiment dans une comédie qui va toujours avoir les mêmes canons, les mêmes personnages, puis ce qui est drôle, en fait, c'est la manière dont le dénouement va se dérouler. Donc on connaît déjà la fin, on connaît déjà le début, on connaît déjà, les personnages sont extrêmement stéréotypés, on les connaît, on sait c'est à quoi s'attendre.
Comme des Grecs dans un monde romain, ou des... Ben en fait, c'est souvent des Grecs, là, qui sont...
Oui, c'est ça, ben, parce qu'on peut pas se moquer des Romains.
C'est ça.
En étant à Rome. Donc, on réutilise les Grecs. C'est les Grecs qui ont des esclaves qui ont besoin de faire des choses pour eux. Les Grecs sont trop stupides pour les faire par eux-mêmes. Donc, c'est les esclaves qui vont venir les aider. C'est pas les Romains, parce que les Romains sont quand même brillants. Faut se garder une petite gêne. Donc, on réutilise vraiment, c'est ça, les comédies, finalement, de la période plus hellénistique qu'on adapte pour l'Empire romain. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'un jeune homme qui va tomber amoureuse d'une fille qui ne peut pas épouser parce qu'elle n'a pas le bon statut. Généralement, ça va être des prostituées. Et on va chercher à... l'esclave, en fait, du jeune homme va chercher à trouver une manière que les deux vont pouvoir se marier, finalement, et donc à accomplir ce que son maître, son jeune maître veut.
Mais il y a un film qui est sorti dans les années, genre, 60, puis c'est une comédie romaine, justement, qui est repris, puis je l'ai écouté dans un cours.
Oui, c'est Funny Thing Happened on the Way to the Forum.
Oui, on pourrait mettre un extrait, on pourrait faire un reel avec un extrait.
Oh, j'ai hâte.
Oh, okay. Oui, parce que c'est incroyable comme comédie.
C'est plutôt drôle aussi.
C'est drôle.
C'est effectivement drôle. C'est un bon.
Mais c'est ça.
Relativement bon, peuple.
Et pour la petite histoire, généralement, la prostituée qui va être épousée, finalement, elle est toujours vierge. Hein, c'est une prostituée vierge qui. Elle vient d'être achetée par. La propriétaire ou le propriétaire, et elle n'a pas encore commencé ses services, mais c'est quand même une prostituée, donc ça marche pas. Puis finalement, par les hasards du sort et les manigances de l'esclave, on va découvrir qu'elle est en réalité la fille d'un citoyen qui a été perdue, enlevée par des pirates quand elle était bébé, ou des choses comme ça qui sont vraiment dramatiques. Et finalement, en tant que fille de citoyen, elle a le bon statut, elle peut donc épouser le jeune homme. Donc on a toujours ce modèle-là, c'est juste la manière dont on arrive... Oui, c'est ça. Donc, dénouement attendu, on les connaît. Et Terence est un petit peu là-dedans dans certaines de ses pièces, dont celle qui m'intéresse d'ailleurs pour une petite référence qu'il fait. Donc, on est vraiment dans ce modèle-là.
Puis, Duprin va reprendre. Oh! C'est-tu moi, les auteurs comiques?
Ben, je m'attends à une joke de pète bientôt.
Ça s'en vient.
Parfait.
Mais dans le fond, il reprend ces modèles féminins-là qui vont être présentés dans la comédie. Donc, pour lui, il va présenter justement des modèles de bonnes versus de mauvaises femmes, j'imagine, étant donné qu'il est dans la binarité, comme on a pu voir dans le premier épisode.
Oui, absolument. Donc, toujours dans cette binarité de l'histoire bien versus le mal. Donc, on garde un peu ce modèle-là. Puis, oui, entre autres, avec les pièces de Terence, il va faire référence à la pièce de l'Adrienne. Donc, qui suit un peu le modèle que
je Adrienne! Vous expliquer. Adrienne! Excusez-moi! Rocky!
Sauf que ça s'appelle pas Adrienne, c'est l'Adrienne, mais qui...
Je suis vraiment désolée, c'est comme sorti.
C'est plus fort que toi.
Ouais, mais comment?
Mais elle s'appelle Glycère.
Oh, malaise!
Glycère!
Ça ressemble à une maladie transmissible sexuellement. Puis elle est prostituée en plus?
Mais vierge! C'est une prostituée vierge.
Glycère!
C'est glissaire.
Ça glisse.
Et puis ça
aère. Hop, hop, fait glissaire.
Et voilà, donc glissaire qui est la femme présentée dans la pièce de l'Adrienne de Terence et qui va être récupérée par Luttprand, donc pour parler de certaines femmes. Et c'est ici qu'on ajoute le petit spice, hein, les petits piments à mettre dans l'épisode, puisqu'on va parler finalement encore une fois de la pornocratie pontificale. mais plus spécifiquement des femmes, et comment est-ce que ce sont elles qui ont contribué à cette pornocratie qui arrive dans ce siècle sombre.
À ce péché de la chair. Puis que ce soit
Ben oui, voyons.
Donc, quand on lit Lutprand, il y en a beaucoup qui l'ont considéré misogyne à cause de son traitement des femmes, ce qui s'explique quand même assez bien. Il est assez particulier et hyper critique des figures féminines.
Mais de son époque, quand même.
Absolument, voilà. Mais des fois, il semble même pire que son époque. Mais c'est aussi pour créer une espèce de modèle inversé. Donc, on montre ce qu'il ne faut pas être pour montrer, donc, par l'inverse, ce qu'est une bonne femme. Donc, on a vraiment encore cette binarité-là, hein, mais qu'on présente à l'inverse. Donc, pour les modèles bibliques qu'on parlait dans l'épisode précédent, on avait vraiment une bonne figure associée à une bonne personne, donc on voyait le lien direct, une mauvaise personne associée à une mauvaise figure, donc encore une fois, c'est direct. Avec la référence de Glycère, on a une inversion, donc on a une bonne figure, un bon modèle de femme qui est associée à une femme horrible. Et là, on fait comme, voyez-vous comment elle est horrible, elle ne respecte absolument rien de ce qu'est une bonne femme.
D'une prostituée vierge.
D'une prostituée vierge, mais c'est en réalité, c'est ça, donc c'est en réalité le statut de fille, de citoyen qui est important pour Glycère ici. Donc voilà. Donc dans le livre 2, il y a un extrait qui va parler de la famille des Théophylactes, qui sont des modèles du vice et de l'immoralité. Oh. Et c'est assez particulier. Est-ce que vous voulez encore un petit extrait merveilleux?
Vas-y.
Ok, je vous promets, c'est assez incroyable comme petit extrait. Donc on parle de Théodora et de ses filles, et il fait un peu l'arbre généalogique, donc on va entendre encore plein de noms merveilleux. Je vais essayer de pas m'enfarger moi-même en les lisant.
Parce mais Théodora, que... c'est un beau nom quand même.
Théodora, c'est un très beau nom.
Mais c'est Théodora Théophylite?
Théophylacte. Mais c'est de la famille des Théophylactes. Elle est mariée à...
Mais Théophylacte, c'est pour aimer Dieu?
Ben en fait, je pense que c'est son mari qui porte le nom de Théophylacte. C'est juste qu'on l'associe par le fait même à la famille qui descend donc de cet homme-là, même si, bon, on n'est pas trop sûr des fois de qui est le père de l'enfant. Mais oui, oui, c'est ça. Mais oui. Oui, donc Théo qui est le dieu, puis
du drame.
Pour le philo, donc philos, ami et amour, oui, voilà. Donc, petit extrait sur mes merveilleuses petites prostituées. Donc, voici comment
ça... C'est l'air d'un pimp quand tu dis ça, t'es genre...
Mes prostituées.
Mais je les aime beaucoup, c'est très très drôle comme amour. Traitement. C'est avec beaucoup d'amour.
Fait que Théodora.
On prend en parler, c'est... on sait pas exactement à quel point elles étaient volontaires dans ce qui arrivait par
super.
Moment. Donc, oui, c'est toujours beau. On les prend un peu à pitié quand même, beau. Ces femmes-là sont particulières, mais voilà. Donc, pour l'extrait, voici. Théodora, la grand-mère de l'Albéric, qui a quitté ce monde depuis peu, la putain éhontée, cette seule évocation... voilà. Cette seule évocation dégoûte au plus haut point, tenait la monarchie de la cité de Rome non sans l'énergie propre à un homme. Elle eut deux filles, Marozia et Théodora, qui non seulement l'égalèrent dans les exercices de Vénus, mais y furent aussi plus précoces.
Oh.
Et après ça, elle va... continuer, donc du pape Serge, dont j'ai fait mention plus haut, Marozia eut Jean, qui obtient la dignité de l'Église romaine, et là elle continue, et là elle descend et elle fait une sorte d'arbre généalogique de cette famille de prostituées qui sont...
De mère en fille.
Ouais, de mère en fille et précoce dans les exercices de Vénus. C'est quand même beau comment c'est dit, mais...
En même temps, là, tu sais, c'est comme... Puis là, pardon, moi je connais moins cette époque-là, mais je me représente, par exemple, l'histoire des Borgia, où Lucrèce Borgia a été accusée toute sa vie d'être une prostituée, mais elle ne l'était pas. Comme, on s'entend que c'est un jugement masculin sur une situation féminine. Fait que ça, c'est mon petit côté de...
On va les défendre juste... un
c'est
peu.
C'est ça.
Et il est aussi vraiment plus cru, je pense, il prend, quand il parle des femmes quand même, que depuis tantôt, quand il parle des hommes, là, dans les...
Hein? Oh, oui,
je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, c'était cru, là.
Ouais, c'est ça. Mais
non, ça, il est très...
En même temps, c'est poétique quand tu parlais de la position elle-même, là. C'est
fille de Vénus.
Oui, dans les exercices de Vénus.
Quand même.
Wow. Donc, on a ici, d'ailleurs, une référence antique, hein, on voit avec Vénus, donc Aphrodite, déesse de l'amour, mais également...
De la passion.
Et voilà, passion, beauté physique et tout ce qui en découle.
Peut-être que c'est juste une belle madame.
Mais... Ouais. Théodora ou Vénus?
Théodora?
Peut-être.
On mais en fait, parce que les auteurs,
me semble que la beauté, c'est incriminant aussi pour l'époque. J'ai l'impression comme que t'as tendance à avoir plus d'accusations, plus t'es belle.
Oui, mais c'est ça, justement.
La figure Borgia, c'était comme oui, la madame, là, comme la belle madame, puis on elle lui a dit belle. Te baiser avec ton père puis ton frère, t'es une crise de prostituée. Comme c'est ça qui s'est passé pour toute sa vie, là. Pas qu'elle s'est fait vendre à 12 ans, puis elle était obligée de se faire marier, me semble. Fait.
On est dans une situation un peu similaire quand je disais là, que les Borgia ont pu courir parce que mon petit siècle a ouvert la marche. Mm-hmm. On est un petit peu quand même dans cette idée-là de ce fameux siècle où les papes sont gérés par des familles romaines importantes. Donc,
puis les papes ont des enfants aussi, hein, puis ont des oui. familles.
Oui, ben voilà, c'est les enfants. Enfin, c'est assez particulier comme arbre généalogique. Là, je voudrais pas essayer de tout faire, ça serait possiblement atroce. Mais voilà, donc on parle donc de Théodora et de ses filles, et on va avoir donc Théodora qui est mariée à Théophylacte, et Théophylacte qui va essayer de faire placer ses amis, ou les gens qu'il veut, et qui doivent des faveurs politiques à sa personne. Donc pour le faire, on va utiliser sa femme, qui va aller coucher avec eux, et donc il va leur devoir quelque chose, donc on les place à certains endroits, et il en profite. Et donc donc c'est pour ça qu'on dit on
fait, quand je parlais de Pim tantôt, j'étais pas loin là. Oh.
On n'est pas tellement loin. Et puis Marozia ou Marozia comme elle est écrite par Bougard, qui a fait une traduction d'ailleurs incroyable de mon texte que j'adore absolument. Mais donc Marozia, elle aurait été elle aussi mariée, elle aurait été forcée en fait de coucher avec un homme avec qui sa mère avait déjà couché, un pape. Donc on voit ici, on se partage mère et fille, le même gars pour s'assurer qu'on le contrôle, et on suppose aux alentours de l'âge de 12 ou 13 ans qu'elle avait été, qu'elle a dû coucher avec elle. Donc est-ce que réellement une fille de 12 ans est allée séduire un vieux mononcle pour faire comme « salut, hein? »
Ça reste. Peut-être qu'elle portait une jupe trop courte.
Peut-être qu'elle portait une jupe trop courte. Peut-être qu'elle avait des gros
spaghettis. Ouais, mais tu sais, on dirait que ça n'a pas changé. Louis Hébert. Non, mais Louis Hébert, ses filles, il les a mariées à 11 ans et 12 ans. Là. Mais on est en 1610. Là.
Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on est un peu dans cette espèce d'époque un peu étrange où puis on essaie de contrôler donc la papauté et les postes importants religieux par les femmes. Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes?
En fait,
oui, c'est un commerce charnel.
C'est ça, c'est par le sexe.
Exactement. Est-ce que c'est les femmes qui vont faire des choix? Théodora, entre autres, on parle à un moment donné que son mari est décédé et elle tient toujours la monarchie, et la manière de le tenir, c'est par le commerce charnel. Donc, est-ce que c'est plus ses choix? Peut-être. Peut-être que elle, sa manière d'obtenir du pouvoir, c'était d'utiliser son corps pour placer des gens qui lui doivent certaines choses au pouvoir, et donc... Donc, il y a une possibilité à ce niveau-là, mais à la base, c'est une matrone.
Ouais, c'est ça.
C'est certain aussi qu'à un moment donné, il y a de la gentilité, là, aussi. Quand mm-hmm. t'es venu dans ce monde-là, t'sais, tu vas pas juste te laisser faire, puis te laisser te faire placer, ben, pour les femmes, là, j'ai l'impression.
Mais de te faire utiliser comme ça, là, t'sais, c'est genre, soit prendre ton, c'est ça, prendre, ben, j'allais dire, c'est-tu le taureau par les cornes? Le bélier par les cornes?
Le
taureau par les coups, en tout cas ça. Un personnage cornu, pas Satan, pour contrôler finalement ce que tu peux contrôler en tant que femme à ton époque. Tu sais, je me dis là, sincèrement, entre, admettons, le tramasser à la rue, parce qu'en tant que femme, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que d'être mariée ou d'user d'autres personnes? Sauf si t'es bonne pour empoisonner les gens.
Ça dépend aussi de ton statut, je pense. Ouais. Parce que...
Mais même si ton statut est très élevé...
Mais c'est ça, mais souvent t'es plus limitée plus ton statut est élevé.
Ouais. Oui, mais souvent aussi, en tant que veuve, tu vas quand même avoir un certain statut une fois que ton mari est décédé. Surtout, dans le cas de Théodora, elle était quand même une matrone de Rome. Elle était quand même une personne importante pour la ville de Rome, mariée dans une famille importante de la ville de Rome. Donc, elle aurait pu avoir un statut sans nécessairement, avoir besoin de faire un commerce charnel. Est-ce que c'est avoir besoin, avoir envie, volontaire ou non? L'histoire ne le dit pas. Mais le terme d'agentivité que tu as utilisé, en fait, est vraiment important ici, parce que Lutpran va vraiment la décrire comme quelqu'un qui a de l'agentivité, donc qui fait ces choix-là, et qui est donc le modèle inverse de la femme idéale, puisque, je rappelle, dans l'extrait, on a lu qu'elle tient la monarchie de Rome avec l'énergie propre à un homme. Donc, elle délaisse son statut de femme, elle prend l'énergie d'un homme, elle tient, elle occupe un poste qui normalement est un poste masculin. Et Lupin est très critique aussi avec ses personnages qui transcendent un peu leur genre. Au début, quand il va parler à l'introduction du premier livre, il va parler des princes efféminés. Donc, ces princes qui sont pas assez bons, qui sont pas assez masculins, qui sont... Donc, quand il parle justement de la rétribution, puis pourquoi est-ce qu'il décrit son œuvre, il dit « Ah, ben, vous m'excuserez aussi de parler par le fait même de ces princes efféminés et tout. » Donc, on a vraiment cette
mais efféminé, espèce de... c'est aussi, je pense, à cette époque-là, une façon de parler des princes orientaux, là.
Fort possiblement, mais il faut faire attention parce que Lutpran est allé à Constantinople, il a fait des ambassades et il adore Constantinople. Okay. Et il les regarde vraiment avec pratiquement vénération, c'est vraiment une belle place, c'est les héritiers des Grecs. Il va utiliser des termes pour les comparer aux Grecs d'ailleurs. Et il y a vraiment cette fascination-là qui fonctionne pour lui envers cette espèce de place orientale, mais qui reste quand même assez proche. Au final, on est au 10e siècle, on a encore des liens bien établis quand même avec Constantinople. T'sais, son père a été envoyé en ambassade, son beau-père, lui aussi, donc on a quand même une certaine association qu'on connaît avec Constantinople, on est reconnu, on discute avec les empereurs, on leur demande de l'aide, ils viennent nous aider contre les Sarrasins, contre les Hongrois, pour s'opposer à ces peuples barbares, donc on a quand même un certain... reconnaissance et attachement, oui, c'est ça, de la partie plus orientale, si on veut, du Moyen-Âge. Mais c'est sûr qu'on est quand même dans un oriental chrétien. Donc, on peut utiliser quand même le terme d'efféminé pour oriental païen, là, à ce moment-là. C'est pas la même chose, là, donc, mais c'est vraiment...
Il parlait pas des vampires, on croit.
Mais je pense pas qu'ils sont efféminés, je pense qu'ils sont... Non!
Excuse-moi, les Volturi...
C'est vrai.
Ils étaient peut-être il déjà là. Ben, ils sont devenus italiens. Who knows?
C'est juste ça que j'ai à dire. Mais c'est ça. Donc, bref, on est quand même dans une époque un peu étrange avec des critiques assez prenantes de Lutpran. Et il va utiliser donc les figures antiques pour essayer d'appuyer son propos. Donc, la figure de Glycère. Qui est absolument fascinante. Elle est...
Puis, c'est ça, il détestait Théodora finalement parce que Théodora, elle administrait une royauté romaine comme un homme. Donc, elle comme dépassait un peu les limites de son genre. Puis, j'imagine qu'elle allait contre lui. Ou c'est juste sa personne que.
C'était une femme.
Il était comme, I don't vibe.
Elle n'avait pas les bonnes vertus féminines. Ça, déjà là, ça passe pas avec Lutpran. Hein, c'est ça, c'est fini. Déjà, à la base, je peux pas t'aimer si t'es pas féminine, si t'es pas une bonne femme vertueuse qui reste à la maison et qui... Quand même, mais en fait... Donc, il y a déjà ça. Puis, je dirais pas que c'est à cause d'elle, mais elle est un peu cet élément central de la pornocratie pour lequel Lutpran est très critique. En fait, ce siècle sombre, cette pornocratie pontificale, on la connaît majoritairement par Lutpran. Donc c'est vraiment dans ces sources qu'on va être hyper critique, puis c'est là qu'on va un peu découvrir cette histoire.
Non, le vagin de Théodore.
Ouais.
C'est tout ça, la pornocratie complète d'un siècle, c'est le vagin d'une madame. Mais
c'est pas un siècle, on est en 904 à 962, ben, 63. C'est 60 ans. Mais c'est Théodora et ses filles par la suite, parce que Marozier est pire. Mais c'est pas elle qui va associer à Glycère, donc on n'en parlera pas autant, mais c'est vraiment cette idée-là de... C'est Théodora qui est au centre un peu de... C'est la raison pour laquelle on commence à avoir des papes qui ne devraient pas être papes, des évêques, des archevêques qui ne devraient pas posséder ces titres-là, qui se trouvent au pouvoir. Et la critique de Lutpran aussi, c'est qu'on a donc des personnes qui sont placées là à cause de la politique séculière. Donc on est vraiment dans cette idée de... du monde séculier, donc non chrétien ou du moins pas religieux dans l'organisation chrétienne, qui se trouve dans des positions pour favoriser les politiques internes ou externes.
Ouais, mais donc c'est problématique. Ça a tout le temps été ça, me semble. T'sais, on s'entend qu'on parlait tantôt de Formose et d'Étienne VI, me semble, ou Étienne Chose.
Étienne VI.
Étienne VI, yo, il a placé tout, il a enlevé toutes les personnes que Formose avait mis pour mettre des personnes qui...
Non, il les a réinstituées, c'est ça l'affaire. Il les a désinstituées parce que c'est Formose qui les avait instituées. Par ça, il les a réinstituées parce qu'il dit « Moi, maintenant, je suis une bonne personne. Moi, je suis un bon pape. » Mais oui, on a quand même un peu ça. On a désacralisé puis on a condamné Formose parce qu'il n'avait pas vraiment soutenu le bon roi, mais il y a eu une querelle. Donc, on a déjà un peu cette idée-là. Mais c'est pas à ce moment-là les rois qui placent les papes. C'est une fois que le pape est institué, il va soutenir son candidat. Donc on a un peu une inversion qui commence à prendre place, où là, à ce moment-là, c'est vraiment le pouvoir séculier qui va choisir qui va aller sur le trône papal. Et c'est vraiment présenté de manière précise avec Théodora, qui va décider, donc, elle va coucher avec le futur pape Jean X, et elle va se mettre à coucher avec quand il faisait des petits voyages à Rome, en tant que, je crois qu'il était évêque, ou même pas encore. Puis là, il va avoir un poste qui va s'ouvrir pour évêque ou archevêque de Ravenne, et elle va l'envoyer là. Mais là, après ça, il y a un autre évêque qui va mourir, elle va faire « ça c'est plus proche de moi, viens-t'en donc là à place. » Puis pendant
que... chérie!
Un peu, oui! Puis pendant que ça, pendant qu'il est en transition, puis qu'il s'en va à Rome pour se faire consacrer pour prendre cette ville-là, le pape qui l'a institué va mourir, puis là Théodora est comme tu pourrais être à Rome à côté de chez moi, c'est intéressant, puis là, bien attendons. Et Lutran va dire que le pape, donc Jean X, a usurpé le trône papal à cause de Théodora qui l'a poussé.
Évidemment.
Donc voilà, mais c'est pas, donc il y a pas d'affaire là pour Lutran. Jean X.
Jean X a pensé avec son pinou.
Voilà.
Mais Jean X a profité.
Ouais. Lui, il a eu du fun, hein.
Il a profité de la pornocratie.
Lui a eu tous les avantages, je veux dire.
Lui, c'est un pornocrate.
Puis il s'est pas fait dire comme un méchant par notre cher auteur, là.
Ben oui, quand même. Il est quand même critiqué, mais pas autant. Pauvre petit. Comment veux-tu résister à Théodora?
Ah, c'est sûr.
Quand même.
Une Lilith de ce monde.
C'est ça, hein. Donc c'est un peu ça qui se passe, puis l'association à Glycère, donc de la pièce de Terence, est absolument fascinante, parce que justement on va renverser tous les canons qu'on associe donc à la personne de Glycère et à la personne de Théodora. Donc pour donner un peu une idée, donc Théodora c'est une matrone légitime de la ville de Rome, elle est placée en position de pouvoir, mais en fait elle va se révéler être une prostituée qui fait un commerce charnel, qui s'adonne au plaisir charnel, qui va vraiment en profiter. Donc on a complètement cette inversion-là de Glycère, qui est une prostituée, qui en réalité va obtenir une position importante, elle va devenir fille de citoyen, et elle va être finalement... Mais Théodora est mariée aussi, mais finalement on va ôter, on va effacer un peu cette idée de prostituée, elle va avancer, alors que Théodora a une forme de régression, si on veut. Mais ça va aller aussi un peu plus loin dans cette espèce d'opposition-là, puisque Théodora, elle se trouve au pouvoir, elle tient la monarchie de Rome. Glycère, dans la pièce de Terence, elle n'est que nommée, elle n'est même pas jamais sur scène. Donc elle est complètement mise en retrait. Toute l'action se passe, mais elle n'est pas là. Et c'est là qu'on voit aussi, donc Théodora est une actrice, elle prend part à son destin, elle a de l'agentivité. Et Glycère, exactement, elle est passive, elle subit son destin, elle n'a pas d'agentivité, elle va simplement la susciter, cette agentivité-là. Donc on a encore une fois une espèce d'inversion qui va se passer, et donc Théodora va se retrouver dans un rôle qui est masculin, elle tient la cité avec l'énergie d'un homme, et Glycère, elle, c'est un canon de la vertu féminine, et c'est donc bien une bonne personne, et c'est donc bien ce qu'on doit être.
Mais c'est une demoiselle en détresse.
Et voilà! Hein, la pauvre petite fille qui a besoin d'être sauvée de sa situation qui n'est pas de sa faute, alors que Théodora s'est mise dans cette situation elle-même.
Ben, elle joue avec les cartes qu'on lui a données, finalement.
Ouais, puis elle a les bases de le
faire. Mais donc, on a vraiment une inversion complète du personnage de Glycère, et de la manière que Lutpran va l'utiliser, il va vraiment associer les deux noms, donc les mettre vraiment ensemble. Donc, cette association-là est un peu un jeu qu'il va faire avec son lecteur. C'est là qu'on comprend que le lecteur de Lutpran nécessairement devait avoir des connaissances quelque peu, parce que sinon, si tu lis Théodora Glycère, ok, c'est bon, tu passes. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas... Mais même que le terme de Glycère, c'est un nom, c'est un mot qui est grec, qui a été latinisé en quelque sorte. Hein. Donc, ça ne veut pas rien
mais
dire
Glycère,
vraiment.
Mais ça doit venir de glucose.
Probablement, donc miel, doux. Et
sweet.
Voilà.
Glucose.
Oui, c'est ça, c'est toute cette idée du miel, de quelque chose qui est doux, qui est agréable, c'est ça.
Parce que, ça se disait aussi en grec, là, tu pouvais dire, je me souviens pas exactement c'est quoi le mot, mais tu pouvais dire mon petit sucré, mais c'était dans le sens où, tu sais, glucose qu'on utilisait pour dire comme my sweet.
Mais c'est ça, donc...
Sweetie!
Sweetie.
Donc oui, ça viendrait probablement de ça. Mm. Puis ça a été latinisé, donc c'est Glycéri qui est utilisé par Lutpran. Mais c'est vraiment, les deux noms sont associés. Donc c'est ça, il y a pas de connaissance vraiment du grec, donc Lutpran joue nécessairement sur les connaissances de son public. Son public est censé être un public averti qui connaît donc les classiques de l'Antiquité qui ont lu Thérence et donc qui peuvent faire le lien.
J'assume aussi que les gens qui disaient en général...
Généralement, oui. On avait quand même une certaine connaissance, mais il faut supposer à ce moment-là que Lutpran croit que l'éducation qu'il a reçue est la même pour tout le monde, que si lui a lu les classiques, nécessairement... Tous ceux qui savent lire, qui ont eu une éducation similaire, savent les classiques également.
Ouais, donc, mais tu sais, il faut quand même dire qu'il pensait aussi qu'il avait été choisi parce qu'il chantait bien dans la chorale.
Mais il chantait bien, ok.
Mais il chantait mieux que toutes les autres.
Mmh. Et voilà. Il avait une voix d'ange. Mmh. Mais voilà, donc on a quand même ce jeu-là qui intervient avec les références.
Puis parlant de référence, lui, oh, comment je dis ça? Lui prend.
Lutpran. Moi, j'oublie, il faut que tu oublies le i, ok? Vas-y avec Lutpran.
Moi, je sais pas ce que j'oublie. Lutpran. Lutpran associe également. Là, je sais pas naturel parce que je suis juste sur la prononciation. Donc, Lutpran associe également les Puniques aux Sarrasins. Peux-tu nous en parler un peu?
Oui, donc Lutpran va également, donc dans le même passage presque de Théodora Glycère, il va mentionner les Sarrasins, donc qui deviennent ce nouvel ennemi, le pire ennemi qu'il n'y a pas à l'époque. Donc les Hongrois, c'est rien comparé aux Sarrasins d'Afrique qui arrivent et qui détruisent tout sur leur passage. C'est des personnes horribles. Et Lutpran va faire un jeu à ce moment-là où il va parler des Sarrasins et à un moment donné, il va mentionner ces Puniques que j'ai déjà mentionné. Donc, il va associer directement Sarrasin et Punique. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes individus. Ils proviennent de la même place, hein, donc les deux viennent d'Afrique du Nord, donc l'association se fait quand même...
C'est qui,
non!
Oui, excusez, ok!
Moi, depuis tantôt, je suis comme, c'est quand même d'expliquer. Je sais c'est qui les Sarrasins, mais comme...
Les Sarrasins, c'est les Arabes.
Les Arabes, c'est les personnes...
c'est païens qui viennent attaquer...
Le mais peuple, dans les guerres...
dans les...
Croisades.
Dans les croisades.
Oui, c'est ça. Mais là, on est avant, par exemple. C'est cette figure-là, exactement. Puis ils vont s'installer, entre autres, au Fresnay, donc au sud de la France. Puis ils vont s'installer en Espagne, puis en Afrique du Nord. Pour la petite histoire des Puniques, désolée, je suis tellement habituée d'en parler que hein, ça y va.
Mais je pense que Rose voyait la détresse.
Non, mais j'assumais aussi, parce que c'est vrai qu'en Antiquité, les Puniques, c'est comme un incontournable, parce que c'est les grands ennemis des Romains.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est rare qu'on en parle...
au quotidien.
Mais non, mais je veux dire aussi... au secondaire, je sais même pas si on parle des Puniques dans l'histoire.
Mais je pense qu'on n'utilise peut-être pas le terme de Punique, mais on parle nécessairement d'Hannibal.
Ouais, on parle de Carthage.
C'est ça. Donc, les Puniques, c'est les Carthaginois, donc ceux qui habitent à Carthage. Et donc, la grande figure d'Hannibal avec les éléphants qui traversent les Alpes pour venir attaquer. Rome. Exactement. Donc, les Puniques, c'est
grave. Mais c'est quoi la grosse bataille en haut, là,
dans le il y a eu trois guerres puniques, fait que je sais pas laquelle tu parles, mais c'est...
Ben, toi, tu penses aux Perses, j'ai l'impression.
Peut-être.
Tu penses au film 300?
Non.
OK.
Non, je pense qu'à un moment donné, il y a pas comme un héros... tout seul, qui a défendu pendant qu'il arrivait.
Faudrait vraiment voir les gestes de Maïté en ce moment.
Ouais, mais je suis pas sûre.
Je fais Moïse et on va y bien.
Mais Scipion africain?
Non, en tout cas, on va laisser faire comme...
Les Thermopyles, donc le petit passage...
Ah oh oui, c'est ça, c'est 300!
Tu fais référence au Perse et à 300. OK! OK!
À ma défense, je suis en histoire du Québec du 19e, ok? Je trouve que je m'en sors pas.
Mais j'ai essayé, comme, tu fais-tu référence à ton sort? Non.
Le col!
Mais ça, c'était tellement, j'étais comme...
Les mouvements des bras! Mais c'est parce que je t'arrête de mimer en ce moment, genre je fais un trapèze dans les airs, tout le monde depuis tantôt en va-et-vient, comme je fais du vent.
Mais c'est ça, j'avais 300 dans ta tête parce que...
Non, j'ai pas 300, c'est dans mes cours au cégep.
Mais il arrive sur un éléphant.
J'ai pas écouté 300, c'est trop violent.
Ok.
Genre, je t'allais l'écouter.
C'est pas eux autres les personnages principaux.
Je pensais, puis
anecdote, parce qu'il faut que je la compte. J'étais allée avec mon amie comme en secondaire 3, voir 300 comme le nouveau, puis moi j'étais comme « Oh, c'est cool, ça va être un, tu sais, une histoire. »
300, le nouveau, tu veux dire, le film de Ridley Scott, le ouais.
Il n'y en a pas deux?
Il y en a un deuxième.
Ouais, mais c'est ça, je pense que j'allais voir le deuxième. Puis j'avais même pas vu le premier. Ou en tout cas, je suis allée voir.
Mais je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pas très grave.
C'est ça. Mais moi, je pensais que c'était un film romantique.
Oh! Bro! Comment t'as pensé ça?
J'ai été surprise.
Elle a vu un homme en torse, puis elle s'est dit nécessairement.
Oui, il y a du sang sur la couverture.
Mais c'est parce que moi, je regarde pas les trailers. Comme, c'est comme un livre, je lis pas le résumé en arrière. Comme, je fais juste l'acheter.
Mais t'as vu le poster? Je peux pas.
Ben,
croire.
Ça mène là, je l'ai pas bien vu, ok? Parce que.
Tu pensais que c'était de l'amour, le rouge?
Ben, la passion!
La passion!
J'ai été surprise. Je sais pas comment le dire, plus que. J'étais avec mon ami, là. J'ai même pas mangé mon popcorn, j'étais juste. Ok?
Ouais, il y a beaucoup de sanglants en plus.
Ouais, fait que. Merci de m'avoir écouté. Fait que là,
mais. Les Phoenix, c'est pas du tout ceux-là.
C'est les Carthaginois.
Les Phoenix, c'est les Carthaginois, donc ils partent d'Afrique, puis ils s'en viennent vers Rome, puis ils s'approchent tellement de Rome qu'on pense à un certain moment qu'ils vont prendre Rome. Mmh. Et c'est un réel danger, puis c'est après ça que les Romains vont être comme absolument inol. Vous pouvez pas nous menacer comme ça. Donc là, ils s'en vont vers Carthage, puis là, c'est le Delenda Carthagoesque. Là, il faut détruire Carthage. Comme il reste plus rien du tout à Carthage. Puis Scipion, l'Africain qui a gagné contre Hannibal Barca, il devient comme un homme politique.
Incroyable, parce qu'Hannibal était vraiment un personnage vraiment. Pratiquement divinisé même par les Romains. Là. C'est complètement ridicule la position dans laquelle ils ont mis Hannibal. C'était un homme extraordinaire, extrêmement puissant. Et donc, nécessairement, son vainqueur est encore plus grand et incroyable. On reprend un peu cette idéologie-là. Donc, on a des ennemis, les plus grands ennemis de Rome, par les Carthaginois, Hannibal et tout. Et là, on va transférer au 10e siècle. On est encore en Italie, on est à Rome. Donc, ces nouveaux ennemis... Ces nouveaux plus grands ennemis du royaume d'Italie viennent encore d'Afrique du Nord, donc nécessairement c'est les mêmes. Puis Carthage a été refondée aussi par après, hein, donc on pense
c'est
à...
C'est devenu une colonie romaine aussi.
C'est ça, donc ça a été conservé, la ville a été reconstruite après avoir
c'est
été complètement rasée. Oui, absolument, il me semble que oui.
ben je fais pas d'histoire romaine non plus.
Non, c'est ça, mais
oui.
Ben moi voilà. J'ai aucune idée, fait que...
Mm-hmm. Mais bref, donc on va associer ces deux figures-là, et ça a vraiment un effet qui est assez fascinant, si on veut, puisqu'on va vraiment reprendre cette idéologie-là et montrer à quel point on est les nouveaux Romains. Donc il faut dire, au Moyen-Âge, on s'associe toujours à cet empire romain qui était donc bien incroyable, mais surtout l'empire romain chrétien, hein, donc après Théodose... et Constantin, qui sont donc incroyables et qui ont tout fait et qui ont rendu l'Empire chrétien. Bref. Donc, on veut s'associer à cet empire romain puissant qui permet de diffuser la bonne parole partout et tout ce qui vient avec, mais le dernier prétendant était donc l'Empire carolingien, qui a été détruit.
Le dernier prétendant au titre d'Empire romain.
On a encore l'Empire romain avec Constantinople et tout, donc l'Empire romain d'Orient, mais l'Empire romain d'Occident, avec la fin de l'Empire carolingien, on n'a plus vraiment de prétendant à ce titre-là. Et là, c'est Luttrell qui va faire comme « Rome ». Ben, ça va venir après, Othon. Mais au départ...
J'étais tellement excitée, là, j'étais genre...
Mais là, j'ai la bonne image de Othon, le petit blond coupe-bol avec sa lance qui court.
Ouais, voilà. Mais en fait, il brille.
Oui, il brille.
Attends.
Ouais, c'est vrai.
Mais là, il se dit Rome.
Mais là, il se dit, Rome, c'est la même chose que Rome. Des ennemis qui viennent d'Afrique, c'est la même chose que des ennemis qui viennent d'Afrique. Donc, les Sarrasins et les Puniques, c'est pareil. Les Romains puis les Italiens du 10e siècle, c'est pareil. Nous sommes la nouvelle Rome. Nous sommes attaqués, mais nous allons gagner parce que nous avons Dieu de notre côté. Donc, on est encore meilleurs, en fait, que les Romains.
Parce que Dieu. C'est les Romains de la République en plus, là, fait que
oui, c'est ça.
Dieu, puis la religion catholique, elle n'existait pas.
Ça rentre pas encore en ligne de compte. Donc là, on a un peu cette idée-là de toute cette gloire qui est associée à l'Empire romain qui maintenant est transférée ces Italiens du petit royaume d'Italie du 10e siècle, et on se prétend les héritiers, et de la manière que Liutprand va l'écrire dans son œuvre, c'est pratiquement comme s'il décrit une 4e guerre punique. Donc on crée un temps qui est rapproché, on essaie vraiment de rapprocher les événements, faire genre, voyez, on s'inscrit réellement à la suite de ces événements-là. Nous sommes réellement incroyables comme ils l'étaient, et même encore plus, parce que non seulement nous avons un combat qui est donc charnel, qui est physique comme les Romains avaient avec Carthage, mais en plus nous c'est aussi un combat qui est spirituel, on s'oppose à des païens, donc on a un double front, donc non seulement on est incroyable comme les Romains, mais on est encore meilleur. Donc on a un peu ce jeu avec cette comparaison-là et l'association donc des chrétiens d'Italie avec le peuple romain, l'association des puniques avec le peuple des Sarrasins, donc on a vraiment un melting pot, si on veut m'excuser l'expression anglaise, et on en ressort une référence qui est absolument incroyable.
C'est-tu habituel de faire ce genre de comparaison-là?
Donc là, je suis en train de faire des recherches là-dessus. On se compare toujours à l'Empire romain, ça c'est absolument certain. Là, on a vraiment ce désir-là de se rattacher à l'Empire, mais cette référence au Punique, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé d'auteur qui semble la réutiliser après que les Puniques n'existent plus. Donc, on va avoir j'ai regardé s'il n'y avait pas de l'intertextualité avec des auteurs classiques. Là, je suis en train de regarder avec les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive, mais encore une fois, j'ai pas trouvé d'auteur qui semble utiliser une sorte d'allégorie similaire. Ça semble être assez fait seulement par Liutprand, ça vient un peu de son cru, de ce que je semble comprendre pour l'instant, et ça viendrait vraiment possiblement en fait de la localisation des deux peuples, donc on est vraiment dans les mêmes endroits, c'est un peu normal qu'on s'associe en quelque sorte.
Est-ce qu'il y a des comparaisons des Sarrasins avec d'autres peuples par d'autres personnes? Ou pas du tout, on les compare pas vraiment?
J'en ai pas vu encore, mais j'ai pas lu énormément d'auteurs du 10e siècle, ça vient dans ma conclusion.
Après, là, avec les croisades.
Avec les croisades, on garde quand même généralement l'appellation sarrasin.
Pas Satan?
Ben, c'est un peu ceux qui viennent du diable et tout, non, quand même pas, mais...
C'est quoi étymologiquement sarrasin, tu sais-tu?
Non. Dis ça, par exemple,
c'est arabe, je m'en rappelle plus.
Il y a une étymologie, mais je pourrais pas la sortir comme ça.
C'est pas grave, je me demandais si tu savais, mais...
Mais pas vite comme ça, malheureusement.
Parce que sarrasin, maintenant, on l'utilise uniquement pour le pain, là.
Oui, en effet. Mais je suis pas sûre que ça vienne de là. Pas sûre que ça vienne de là, mais ouais. Non, c'est ça, malheureusement, pour l'étymologie exacte, ça, je peux pas répondre.
OK. Et ben, mais je pense qu'on arrive tranquillement un peu vite à comme nos dernières questions.
Du latin, Sarah Séni, peuple arabe.
Sarah Séni, ouais.
Et du grec ancien, je peux pas le lire.
Mais tu l'as de latiniser à côté.
Sarah Kenoï. Hein?
Ouais.
Ok, mais ça ne dit rien du tout sur l'étymologie.
Voilà.
Ok.
Bon, c'est arabe.
Ouais, ça veut dire les arabes. Ok, bon.
Ce qui fait du sens, hein. C'est eux.
Maintenant que je t'ai c'est eux.
Voilà. Maintenant que je t'ai interrompu.
Oui. Mais ça me permet de dire quand même quelque chose, puisqu'on a parlé de Scipion l'Africain en parlant des Puniques, puis Alexandre avait nous parlé d'un membre de la famille de Scipion l'Africain dans deux semaines, de Cornélie. Boss, madame. mais bref, pour arriver à comme notre dernière question à développement là, et qui nous ramène à ton comme sujet plus grand de maîtrise, lire Liutprand, qu'est-ce que ça t'apprend sur le temps médiéval?
Oui, parce qu'on se rappelle que c'est mon sujet à la base, hein, donc c'est d'étudier comment est-ce qu'on écrit le temps. Liutprand est assez intéressant au niveau de la temporalité, parce qu'il est 100% subjectif dans la manière qu'il écrit son œuvre. Donc ça nous donne quand même beaucoup d'informations avec un auteur qui ne se veut pas être objectif, qui ne cherche pas à masquer un peu ses intentions, puisqu'il écrit réellement ce qu'il pense, et donc il va montrer les associations qu'il fait, et on le voit entre autres avec les références qu'on a parlé. Et ce temps médiéval-là va se trouver donc influencé par la manière dont Liutprand le dit. Ce qui est fascinant avec l'œuvre de Liutprand, c'est qu'on n'a pas encore de datation. Donc, les fameuses dates, un peu de la manière que nous, on fait l'histoire aujourd'hui, donc en telle année, il s'est passé telle chose, en telle année, il s'est passé telle chose, j'en ai dit même aujourd'hui dans les différents épisodes du podcast, c'est pas quelque chose que Lutpran fait. Mais c'est quelque chose qu'il sait faire. Donc il y a une date qui est citée dans son texte, et elle est citée avec une précision incroyable. Donc on a non seulement l'année, on a le mois, on a la date précise, et on a même l'heure, je pense, qui est mentionnée. Là. Donc Lutpran est capable de dater les événements, or c'est pas quelque chose qu'il sent le besoin de faire. Donc j'étudie pas seulement les références, j'étudie tout ce qui touche au temps, et ça c'est pas visible dans son œuvre. Donc c'est déjà assez fascinant de voir qu'on comprend l'histoire d'une manière différente, on comprend la temporalité de l'histoire sans avoir besoin de voir les dates, on a juste besoin de voir l'enchaînement des événements. Donc déjà là on a un point qui est absolument fascinant. Ensuite on voit aussi qu'est-ce qu'il considère important à noter et qu'est-ce qui va servir donc de repère temporel en quelque sorte. Donc il y a certains événements qui vont servir à dater des grandes batailles, donc il va se passer à ça avant, ça après. Donc on voit quand même une chronologie qui s'installe mais qui se fait de manière un peu stratigraphique si on veut. Là. Donc on va vraiment le faire en comparaison avec ce qui vient avant, avec ce qui vient après, mais sans avoir besoin de préciser nécessairement le temps qui passe entre les deux. On va avoir beaucoup de termes qui sont linguistiques, que j'appelle finalement marqueurs temporels dans ma maîtrise, donc un peu un pendant ce temps, un après 10 ans, un 2 ans auparavant, donc on a des termes après cela, donc les eo tempore, on a des formules latines assez classiques qui permettent donc d'établir une certaine chronologie, mais qui n'est jamais vraiment précise, on n'a pas de date. Et ensuite, l'utilisation des références antiques, qui se trouve aussi assez intéressante, ça nous permet de voir comment est-ce qu'il va réfléchir le temps. Donc on va chercher à se rapprocher de cette antiquité qu'on admire dans certains cas. Donc quand on parle de l'antiquité biblique, donc, on s'entend, j'utilise antiquité, référence antique, un peu à la manière dont les médiévaux de l'époque vont le voir. Donc on parle de tout ce qui vient avant. Mais la Bible, à ce moment-là, est perçue comme historique. Donc, nécessairement, tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'est de l'histoire, et donc c'est des références de l'Antiquité, en quelque sorte. Donc, les références antiques vont donc permettre de rapprocher ces deux périodes historiques qui n'étaient pas réellement pensées comme des périodes historiques par les médiévaux. Hein. L'Antiquité, ça vient plus tard qu'on va diviser, créer cette division entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Pour eux, c'était vraiment une continuité.
Mais les gens en 476...
Ils pensaient pas qu'ils venaient de vivre un changement d'époque.
Ah, ils se sont pas dit, bon, c'est enfin l'époque médiévale.
Voilà, oui, voilà.
On est enfin sortis de l'Antiquité.
Il y avait une ligne, puis ils ont fait, poup!
Voilà. Non, on n'est pas là-dedans, malheureusement. Hein. C'est pas aussi noir et blanc, même si Lutran aimerait ça.
C'est vrai
qu'il
est mais... comme
il. Voilà, lui, il aurait aimé, mais c'est... on n'est pas là-dedans. Donc, il va essayer vraiment de rapprocher ces deux réalités-là. Mais... ça va aussi avoir un effet qui est un petit peu différent puisque les connaissances qui vont être déjà comme acquises par le lecteur, que Lutpran suppose, va permettre donc de créer une histoire qui devient de plus en plus binaire. Mais cette histoire binaire-là, en associant, en comparant des modèles qui sont figés, hein, donc Moïse et Moïse, Judas et Judas, glisseurs, tu sais, c'est des personnages qui ne bougent pas, qui sont vraiment fixes dans le temps, qui n'ont pas vraiment la possibilité d'évoluer. Et en l'associant donc à un personnage contemporain à une figure antique,
on vient
en quelque sorte, oui, à créer un peu cette fixité-là, si on veut, dans le temps. Donc on vient dire que nécessairement, s'il est bon, il est bon, s'il est mauvais, il est mauvais, il n'a plus vraiment de place à évoluer. On va quand même voir certains personnages qui vont évoluer dans l'œuvre de Lutpran, mais généralement, dès qu'il y en a un qui est classifié comme bon, il est nécessairement bon. On n'a pas cette évolution-là, donc on a une forme de position d'immobilité qui va prendre place.
Quand t'es bon, tu peux devenir meilleur, puis quand t'es pire, tu peux devenir... Quand t'es mauvais, tu peux devenir pire, mais tu peux pas devenir bon.
Non, c'est ça, il n'y a plus vraiment cette possibilité de mouvement-là entre les catégories. Et donc, ça crée, par exemple, pour Judas, il n'y a plus vraiment de possibilité de rédemption. Bon, faut dire qu'à ce moment-là, les personnages que Lutpran utilise, c'est des personnages qui sont décédés, pas dans certains cas, non, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ils sont décédés. Mais ça va quand même créer une forme de fixité qui va... Donc, il n'y aura pas de mouvement possible, pas de possibilité de transgresser le statut qui a été associé, finalement. Puis, les références, les associations qu'il va faire, qui sont parfois insolites, enlevées avec Glissaire, c'est un petit peu étrange comme association au départ, mais ça va permettre un peu ce qu'il va... de communiquer ce que Lutpran désire communiquer. Et ça va être une sorte de justification du temps vécu. Donc, on vient à expliquer pourquoi il y a des malheurs qui se passent. Donc, toutes les attaques des Sarrasins, toutes les mauvaises choses qui se passent, ben, c'est peut-être parce que Théodora, elle a couché avec quelqu'un qu'il fallait pas, puis qu'elle l'a placé sur le trône papal, puis là, Dieu lui a fait genre, non, c'est pas de même, ça se passe, je vais vous envoyer une punition. Et il y a des extraits qui présentent réellement cette idée-là. Donc, on a vraiment parfois Lutprand qui va dire, voyez-vous, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est bon et qu'il punit les méchants et qu'il justifie les bons qu'on voit prendre place différents événements. Donc on a vraiment cette idée-là de vouloir positionner Dieu dans une figure qui va agir directement dans la temporalité. Et oui, exactement. Et donc on est les personnages...
les justiciers masqués.
Mais les personnages ont donc un pouvoir d'agentivité, mais en même temps, pas tant. Donc Béranger, s'il est méchant, c'est parce que lui est une mauvaise personne. Mais la punition qui arrive de Dieu par les attaques des Sarrasins, par exemple, les Sarrasins, eux, n'ont pas de possibilité de rédemption, ils n'ont pas d'agentivité, c'est juste une punition divine. Donc ça va créer un peu une espèce de temporalité un peu étrange. Et ça va donc venir faire des petits jeux qui vont donc justifier cet âge noir, donc ce fameux siècle obscur... Donc, le Saeculum Obscurum qu'on vient essayer à justifier par l'intervention donc divine.
Ok. Wow.
Très intéressant.
Là, c'est.
C'est ce que je me dirige vers, du moins pour l'instant, vers la fin de ma maîtrise, mais voilà.
Ouais, justement, tu finis bientôt, toi?
Mot de la fin, pour l'interrogation.
Ouais, mais on est allé dans deux questions différentes. Mais... Ah! Qu'est-ce qui t'attend pour un futur proche et moins proche? Moi, c'était ça ma question, puis aussi, c'était un mot de la fin.
Bon, pour le futur proche et moins proche, j'espère finir bientôt.
Touche du bois.
Voilà. Donc, avec beaucoup d'espoir, j'aimerais déposer cet été. Donc, voilà. En ce moment, je suis dans l'écriture de mon chapitre 3, il me reste mon chapitre 4, intro, conclusion, puis à réviser le tout. Donc, c'est absolument possible à faire. À voir si je vais m'y rendre, puisque c'est quand même une grosse maîtrise que j'écris. Donc en ce moment, je fais 4 chapitres de 30 pages environ, donc il y a du texte, mais c'est ça. Donc avec beaucoup d'espoir, mon futur proche va être de l'écriture et encore de l'écriture pour espérer arriver à des conclusions intéressantes sur le temps. Futur moins proche à confirmer, mais pour l'instant, je regarde la possibilité de continuer au doctorat.
Excitant!
Oh,
est-ce que tu continuerais sur l'étude du temps?
Je suis pas encore décidée, c'est un peu pour ça que c'est à voir. J'aime beaucoup étudier le temps, mais je sais pas si après 2 ans de maîtrise plus 5 ans de doctorat, si je vais avoir envie de changer et de voir autre chose. Donc, à confirmer, mais c'est définitivement pas une porte qui est fermée. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je trouve vraiment intéressant. Soit ça, soit jouer sur les références encore, que je trouve absolument fascinantes. Sans les étudier nécessairement du point de vue du temps, donc à voir.
Super, mais merci d'être venue, Amy.
Mais ça fait plaisir.
Merci d'avoir fait 2 épisodes quand même. C'est louable.
2 épisodes qui m'ont appris beaucoup. Maintenant, je sais que Punic, c'est pas les 300.
Ouais, c'est les Perses. Les 300, c'est des Spartiates.
D'accord. Yes!
Il était contre les Perses. Okay. Au Thermopyles.
Yes! En tout cas, fait que sur ces révisions d'histoire, j'espère que vous avez apprécié autant que nous tous ces remous. Et ce drama en fait que Lutprand. Yes! Lutprand et Bertrand.
Lutprand
et Othon, ce cher monsieur au glaive béni. Donc, on te remercie d'avoir été avec nous. Ça a été super plaisant. Puis, on va vous dire à la prochaine. On va se revoir dans quelques semaines avec Alexandre. Qui va nous parler de les représentations... Rose, continue. Qui va nous parler de...
Des représentations des femmes.
C'est ça que j'allais dire!
Dans les récits légendaires antiques et dans les légendes québécoises. Qu'elle va d'ailleurs nous expliquer c'est quoi la différence entre un récit légendaire et une légende.
Ouf! On a très hâte. Donc, sur ce, on vous dit bye la gang!
Bye!